Nous disons Amen de tout notre cœur. La vérité va de l'avant. Merci, frère Cécile, pour la courte mais bonne introduction. Il y a 46 ans, j'étais à Pretoria pour la première fois avec le frère Sidney Jackson, un vieux et bon ami. Je regarde à plusieurs années en arrière dans le ministère, mais avant de donner un court témoignage, j'aimerais lire les Écritures tout d'abord. Et ensuite, nous aurons un court témoignage et nous irons dans la parole de Dieu. Romains, chapitre 1er. Ici, nous allons lire le verset 1 et 2. Romains, chapitre 1er, versets 1 et 2. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes Écritures. S'il vous plaît, rappelez-vous, promis par ses prophètes, ses saints prophètes, dans de saintes Écritures. Romains, chapitre 16, à partir du verset 25. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation, du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui maintenant a été manifesté et qui par des écrits prophétiques, selon le commandement du Dieu éternel, a été donné à connaître à toutes les nations, pour l'obéissance de la foi. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Et nous lisons le dernier verset, le 13. Pour affermir vos cœurs sans reproche, en sainteté devant notre Dieu et Père, en la venue de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Tous ceux qui dorment en Christ seront ramenés avec lui. 1 Jean. Ici, nous allons lire 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Seigneur Dieu, nous te remettons ce service entre tes mains. Sois avec nous d'une manière spéciale. Ceci est le jour que tu as fait pour nous. S'il te plaît, ouvre notre entendement pour comprendre les Écritures par révélation divine dans son accomplissement, dans leurs accomplissements. Bénis-nous et sois avec nous, je te prie, au nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Pour témoigner, je suis, par la grâce de Dieu, dans le royaume de Dieu depuis 1948. Et par la grâce de Dieu, depuis 1949, j'ai participé à plusieurs conventions internationales. J'ai connu David Duplessis, notre vieil ami et citoyen. Il a été à Hambourg en 1949, et à ce moment-là, j'ai entendu parler du ministère de frère William Branham. Ainsi, durant toutes ces années, depuis ce temps-là, j'ai été dans des conventions avec Oral Roberts, T.L. Osborne, Tommy Hicks, Maurice Cerullo, avec tous ces grands évangélistes, parce que je pouvais interpréter en allemand, dans la langue allemande. Ainsi, par la grâce de Dieu, je suis habitué des choses qui se sont passées dans notre temps. Et notre sujet principal est là, le retour promis de notre Seigneur. Jean chapitre 14, je m'en vais vous préparer une place, et ensuite je reviendrai et je vous prendrai pour être là où je suis. Ceci est la promesse. Et bien aimé, la vraie foi des vrais croyants est ancrée dans les promesses de Dieu. Si vous n'avez pas de promesse, vous avez de l'imagination religieuse. Vous devez avoir d'abord une promesse. Dans tout l'Ancien Testament, vous trouvez toutes les promesses qui devaient être accomplies au cours du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Malachie, au chapitre 3, nous trouvons la promesse pour la première venue de notre Sauveur. Là, le Seigneur a dit, « J'enverrai mon messager devant ma face pour préparer mon chemin devant moi. » C'était une promesse. Mais quand le temps est venu, l'ange Gabriel est descendu du ciel et a parlé à Zacharie dans le temple, lui donnant la promesse que sa femme Élisabeth aurait un fils et qu'il appellerait son nom Jean, car il irait devant le Seigneur dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer les voies du Seigneur. Aucun homme de Dieu ne souffle sa propre trompette. Aucun homme de Dieu ne prépare ses propres voies. Chaque véritable homme de Dieu prêche la parole de Dieu et prépare les gens qui entendent la parole de Dieu et les rapportent en contact avec Dieu. Bien-aimés, Laissez-moi vous dire ceci avec respect. Dans notre temps, nous avons beaucoup ont entendu parler de Frère Branham. Mais qui parle de Jésus-Christ, bien-aimé? C'est absolument nécessaire de revenir à la parole de Dieu et de savoir que je ne prêche pas Paul, que je ne prêche pas Pierre, que je ne prêche pas William Branham, que je ne prêche pas Frère Franck, je prêche Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et en même temps, j'ai appris ce que Dieu a dit à travers Pierre. J'ai appris ce que Dieu a dit à travers Paul. J'ai eu la connaissance, mais je prêche Jésus-Christ. Si nous allons au premier sermon, l'apôtre Pierre a prêché le jour de Pentecôte. Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Mon dernier sermon doit être comme le premier sermon qui a été prêché le jour de Pentecôte. Vous comprenez? Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et le ministère que Dieu a donné au frère Branham était de restaurer, de faire revenir, de nous faire revenir au même commencement, à l'origine, à la fondation originelle posée par les apôtres et les prophètes. 1 Corinthiens, chapitre 3. L'apôtre Paul pouvait dire, « J'ai posé le fondement. Aucun autre fondement ne peut être posé à part celui qui a déjà été posé, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. » Ainsi, nous comprenons par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas seulement en train de vivre dans la dernière génération, mais nous sommes à la fin du temps de la grâce. Ce n'est pas seulement le temps de la fin, mais c'est absolument très, très proche, le retour de Jésus-Christ. Et bien aimés frères et sœurs, chers amis, la Bible dit dans Matthieu 25, Matthieu 25, verset 10. Ceux qui étaient prêts entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ainsi, ceci est le temps de l'appel à sortir, le temps de la séparation, le temps de la préparation pour le retour de Christ. C'est comme ce que vous lisez dans Apocalypse chapitre 19, au verset 7. Et son épouse et sa femme s'est préparée. Mais comme il en est dans le naturel, ainsi en est-il dans le spirituel. S'il y a un mariage qui est annoncé, c'est seulement l'épouse qui se prépare. Toutes les autres femmes continuent à vivre comme d'habitude. S'il y a un mariage qui est annoncé, c'est seulement l'épouse qui se prépare parce que elle a la promesse du fiancé. Ainsi en est-il maintenant. Toutes les églises vont continuer comme elles sont. Elles vont continuer croyant ce qu'elles croient et faisant ce qu'elles font. Mais l'épouse de Christ entendra la voix de l'époux et se préparera et se prépare pour le retour du Seigneur. Et dans cette connexion, bien-aimés frères et sœurs, c'est nécessaire de vous dire que le frère Branham a reçu une commission divine, comme Moïse, comme les prophètes, comme l'apôtre Paul, une commission directe et divine. Et il y a un certain nombre d'expériences avec le Seigneur, des expériences surnaturelles que cet homme de Dieu a eu. Même quand il avait 7 ans, il avait déjà des visions. Le Seigneur l'avait préordonné comme prophète. Et ensuite, quand le temps est venu, en 1933, comme beaucoup pourraient le savoir, pour ceux qui le savent, pour ceux qui sont habitués avec le message de l'heure, il avait un ministère ordonné. Il était avant ordonné dans l'église baptiste. Et ensuite vint le moment, un jour, que le Seigneur avait fait pour lui. Et il a dû sortir de cette église. Et il a eu alors sa première réunion sous tente. Je pense qu'il y avait 2000 personnes qui étaient réunies là pour écouter la parole du Seigneur. Et ensuite, un samedi, le 11 juin 1933, le frère Branham a eu son premier service de baptême. Toutes les foules l'ont accompagné au fleuve Ohio. Et il y avait environ 300 personnes qui allaient se faire baptiser. Et plus ou moins 4000 étaient là, sur la berge, en train de regarder. Et alors qu'il baptisait, il allait baptiser la 17e personne. C'était un jeune frère qui a été sauvé et qui avait dédié sa vie au Seigneur. Et alors il a entendu une voix, « Lève les yeux !» Et il a entendu la voix pour une deuxième fois, « Lève les yeux !» Et lorsqu'il leva les yeux, il y avait cette lumière surnaturelle que vous voyez ici, sur la tête du frère Branham. Et cette lumière surnaturelle est descendue, visible pour chaque personne qui était présente. Et de cette lumière surnaturelle, la voix, une voix puissante, a dit ces mots, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la deuxième venue de Christ. Beaucoup de personnes sont tombées, sont évanouies. Et beaucoup se sont agenouillés pour prier. C'était le jour que le Seigneur avait fait. Ainsi, même ceux qui étaient là, présents, ont vu la lumière, ont vu ce que le Seigneur avait fait ce jour-là. Ainsi, par la grâce de Dieu, parce que j'ai connu le frère Branham pendant 10 ans, j'étais dans ses réunions en Allemagne, j'étais dans ses réunions aux USA, j'ai mangé avec lui à la même table, j'ai conduit dans la même voiture, j'étais dans la même voiture qu'il conduisait, et par la grâce de Dieu, depuis 1955, quand le frère Branham est venu en Allemagne, mes amis, je peux vous dire que j'ai vu les jours bibliques. J'ai vu Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous ne pouvez pas imaginer comment je me sentais. Il y avait plus ou moins 8000 personnes qui étaient réunies dans ces réunions. Après la réunion, il appelait les pécheurs à la repentance. Il les invitait à venir devant. Et des centaines venaient pour dédier leur vie au Seigneur. Mais alors, il appelait la ligne de prière. Et pour chaque personne dans la ligne de prière, le Seigneur lui montrait une vision. Ne parlant pas la langue allemande, mais parlant via un interprète, il pouvait dire aux gens, « Toi, tu viens de Hambourg. Toi, tu es une infirmière. Tu travailles dans un hôpital. Je te vois. Tu es dans une pièce. Tu as ouvert les fenêtres vers le parc et tu as prié. » Il donnait tous les détails. Et il pouvait dire à un autre frère, « Toi, tu viens, par exemple, de Berlin. » Et alors, il y a eu une chose extraordinaire, en fait, deux choses extraordinaires qui se sont produites. Il y avait un couple de Suisses qui était venu sur la plateforme, et le frère Branham leur a dit, « Vous n'êtes pas de ce pays, Vous venez de la Suisse et votre fille est née aveugle. Vous savez ce que Frère Franck a fait? C'était la première fois que je voyais un ministère comme celui-là. La première fois. J'étais si nerveux quand j'ai entendu que le frère Branham prierait pour cette fille qui était née aveugle. J'étais en train de bouger sur ma chaise comme ça, d'aller avant en arrière. J'étais si nerveux et j'ai pensé, mais pourquoi est-ce qu'il ne prie pas après le service? Ainsi que personne ne pourrait voir ce qui se passe. Vous savez, c'était la première fois que je voyais ces choses-là, de voir Jésus-Christ le même à l'œuvre. Mais je peux vous dire, après une très courte prière, vraiment une très courte prière, le frère Branham a dit, « Reçois ta vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. » La fille a crié du plus haut de sa voix, a couru à travers la plateforme. Et le frère Branham l'a rappelé et lui a dit, « S'il te plaît, pointe ton doigt sur mon nez. Ainsi, tout le monde verra que tu peux voir. » Nous avons pleuré, nous avons prié, loué Dieu. Et toute la congrégation ne pouvait pas s'arrêter. Tout le monde louait Dieu, car nous avions vu la puissance de Dieu manifestée. Et Jésus-Christ confirmant sa parole. Et ensuite vint quelque chose de très spécial. Et il y avait un autre jeune homme qui était dans la ligne de prière. Et tout à coup, frère Branham a dit, « Je vois l'océan. Je vois New York. Je vois beaucoup de buildings à New York. Je vois les voitures en train de rouler. » Et ensuite, il dit, « Tu n'es pas d'Allemagne. Tu viens de l'Amérique. Et tu es un ministre. Tu as été envoyé comme un missionnaire de l'Église de Dieu. Et tu viens de New York. » Et vous savez ce qui s'est passé? Et il a dit, « Et mon interprète, c'est votre fils. » Pouvez-vous imaginer? Juste là, rencontrant l'homme pour la première fois. Mais comme je l'ai dit avant, le frère Branham a vu dans une vision. Et ensuite, il pouvait dire aux personnes ce qu'il voyait et entendait, et les visions. Le même ministère que le Seigneur avait. Si vous lisez Jean chapitre 1er, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ton nom. Il pouvait dire le nom. Avant que Philippe t'ait appelé, je t'ai vu sous le figuier. Je t'ai vu. Et même notre Seigneur devait être un prophète. Il devait avoir un ministère prophétique. Parce que Moïse avait dit dans Deutéronome chapitre 18, un prophète comme moi, Dieu vous enverra de la part de vos frères, du milieu de vos frères. Ainsi, notre Seigneur avait un ministère. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon. Le nom de ton père est Jonas. Il pouvait dire à la femme, au puits, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Si vous regardez dans l'Évangile, il pouvait dire aux disciples, allez dans cette ville, vous rencontrerez un homme portant l'eau, dites-lui que nous aurons la Pâque dans sa maison. Notre Seigneur devait avoir un ministère prophétique. Et ce ministère s'est répété dans notre temps. Et le frère Branham, plusieurs fois, a fait cette déclaration dans les jours de Christ, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère s'est seulement produit pour les Juifs et les Samaritains, pas aux gentils, aux nations. Et même Dans Matthieu chapitre 10, notre Seigneur a dit, n'allez pas vers les nations, allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. Et ensuite, dans Matthieu 28, notre Seigneur a donné la grande commission. Allez dans tout le monde, dans toutes les nations, enseignez toutes les nations et baptisez-les dans le nom. Pas dans des titres. Père est un titre. Fils est un titre. Mais quel est le nom dans lequel Dieu s'est révélé lui-même dans le Nouveau Testament? Quel est son nom? Quel est le nom de l'Alliance du Nouveau Testament? Le nom au-dessus de ton nom. Tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Ceci, vous pouvez le lire dans l'hébreu original. Notre Seigneur était appelé Yahweh, l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il était appelé Yahshua, qui signifie Yahvé Sauveur. Le même nom d'Israël en hébreu, Yahweh, est le même qui est devenu dans le Nouveau Testament Yahshua. C'est devenu notre Sauveur qui pouvait dire avant qu'Abraham fût, je suis, je suis. Mais voici le mystère, bien-aimés frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je connais le Seigneur personnellement. Oui, je connais le Seigneur personnellement. J'ai entendu sa voix avec ses oreilles. Avec ses oreilles. Si vous allez dans tout l'Ancien Testament, personne ne s'est jamais adressé durant les 4000 ans à Dieu dans le ciel comme papa, comme père. Pas une seule fois. Abraham n'a jamais parlé à un père dans un ciel, dans le ciel. Jamais un prophète ou David, qui que ce soit, a parlé d'un père dans le ciel. Pas une seule fois durant les 4000 ans. Personne n'a jamais dit un fils dans le ciel. Jamais une seule fois, jamais une seule fois. Pendant plus de 6000 fois, le Seigneur Dieu, pour nous sauver, le même que nous connaissons comme le Seigneur Dieu, a dû être manifesté dans la chair. Et c'est pourquoi, au ciel, il est notre Père. C'est pourquoi nous prions notre Père qui est au ciel. Sur la terre, manifesté dans son Fils seul engendré, Emmanuel, Dieu avec nous. Et par la grâce de Dieu, à travers le Saint-Esprit, le même Dieu, habitant dans les croyants. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Trois manifestations du même Dieu pour accomplir son propre plan de salut, pour nous ramener dans notre position originelle et nous placer en tant que fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il a dû être manifesté en tant que fils de Dieu, pour nous ramener dans une position de fils et de fille de Dieu, dans notre position originelle que nous avions dès le début. Ainsi, nous comprenons que le frère Branham a été envoyé pour nous ramener, pour nous restaurer aux enseignements originaux. Le mot « Trinité » n'est même pas dans la Bible. Le mot « Dieu » en trois personnes n'est pas dans la Bible. Le mot « trois personnes dans la divinité » n'est pas dans la Bible. Il n'y a aucune écriture qui dirait que Dieu, dans l'éternité, est devenu un fils. Ça, c'est absolument faux, c'est pas vrai. Le fils était né à Bethléem. Il est venu pour nous sauver, pour payer le prix, pour verser son sang, pour donner sa vie, afin que tous les rachetés reçoivent la même vie qui était dans le sang du Sauveur. Bien-aimé, selon Lévitique 17, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Ainsi, lorsque le Seigneur a versé son sang, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 26, à partir du verset 26 à 28, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Ainsi, il a versé son sang, il a donné sa vie, il nous a rachetés, il nous a ramenés dans la communion avec Dieu. Et nous avons reçu le pardon de nos péchés. Nous avons été réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant. Ainsi, nous devons commencer dans la bonne direction. Et dans Jean, chapitre 3, le Seigneur a dit, « Vous devez être né de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Sinon, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. » Et ensuite, nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, je ne vais pas être long, mais je veux que vous compreniez. Pour recevoir le pardon de nos péchés, nous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur qui a versé son sang pour nous racheter, pour pardonner nos péchés et pour nous ramener à Dieu. Mais pour être né de nouveau, vous devez avoir une semence. Chaque naissance a besoin d'une semence. C'est pourquoi la Sainte Parole de Dieu dit, dans Jean chapitre 1er, verset 18, « Né de nouveau par la semence éternelle de la parole de Dieu. » 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, « Né de nouveau par la semence de la parole de Dieu. » La parole est une semence. Et ensuite, dès le début, il y avait une semence, et Jésus était la semence. Et maintenant, la parole est en vous, est en moi. Et cette parole, et cette semence de Dieu est semée dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit vient sur nous pour créer la nouvelle vie en nous. Juste comme il en est avec le Sauveur. Il en est avec le Sauveur. Comment est-ce que la parole est devenue chair? L'ange Gabriel a apporté la parole à Marie et dès le moment où elle crut cette promesse, le Saint-Esprit l'a couvert et Christ, le Fils de Dieu, est né. Au moment où vous croyez la promesse, la parole promise de ce jour, pour ce jour, le Saint-Esprit vient sur vous et vous apporte cette nouvelle naissance. Et vous recevez pas seulement le pardon de vos péchés, vous recevez la vie éternelle. Et c'est seulement ceux qui ont la vie éternelle qui pourront vivre éternellement. Ainsi, mes bien-aimés, le message de l'heure, c'est le sujet le plus important de notre jour et de notre temps. Pourquoi? Parce que Frère Branham, il a été dit à Frère Branham, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Christ. Dieu a repris le messager, mais le message reste avec nous. Et encore quelques mots de témoignage, parce que j'ai connu le frère Branham, j'ai parlé avec lui par téléphone depuis l'Allemagne, j'ai encore 21 lettres durant toutes ces années de correspondance. J'étais aussi au funérailles. Et avant de parler de cela, j'aimerais vous dire que le jour le plus important dans ma vie était le 2 avril 1962. C'était un lundi matin. Et en ce moment-là, je prêchais, mais je travaillais aussi pour le gouvernement allemand. Pendant 15 ans, je prêchais et je travaillais en même temps. Mais bien-aimé, ce lundi matin est un jour spécial. Je m'étais préparé pour la journée. Et ensuite, je suis allé vers la fenêtre, j'ai ouvert les rideaux et j'ai regardé par la fenêtre. La nuit était terminée, mais le soleil n'était pas encore levé. Et parce qu'il n'y avait pas de nuages dans le soleil, j'étais d'une certaine façon heureux que la saison des pluies était terminée. Et je suis alors revenu dans ma pièce et j'ai alors confié la journée au Seigneur, comme je le fais tous les matins. Et juste après la courte prière, je me suis remis sur mes pieds et j'ai regardé vers la fenêtre. Et comme vous entendez ma voix, je regardais droit devant moi et la voix du Seigneur est venue du haut, mais de la droite, comme ceci. Comme vous entendez ma voix, personne, personne ne peut jamais imaginer l'autorité de cette voix. Et le Seigneur a dit ces mots, « Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai vers d'autres villes pour prêcher ma parole. » Je suis tombé tout d'un coup, parce que la voix venait du haut et de la droite, je suis tombé sur le tapis, sur ma gauche, et je n'avais plus de force dans mon corps. Vous ne pouvez jamais, jamais imaginer cette voix directe du Seigneur Dieu. Mais de ce jour-là, dès ce jour-là, ma vie a été pour le Seigneur. Et après quelques minutes, je me suis relevé, mes genoux étaient si faibles, ils tremblaient comme ceci, et je regardais vers la fenêtre, et j'ai dit, « Seigneur, cher Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Ils ont toutes choses en abondance. Ils ne sont pas prêts à écouter. » Et vous savez ce qui s'est passé? Je venais de dire ces choses quand le Seigneur a parlé une deuxième fois, « Mon serviteur, le temps viendra où ils t'écouteront. Emmagasine la nourriture, car une grande famine approche. Ensuite, tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. » Ces paroles sont aussi vraies que toutes les paroles dans la Bible. Mes amis, vous pouvez imaginer un appel direct divin au ministère, première chose. Un, pour prêcher la parole. Numéro deux, pour emmagasiner la nourriture. Vous savez, le Seigneur lui-même a dit, « Mon serviteur, n'établis pas d'assemblée locale. Je ne fais que aller et venir. Les frères dans toutes les villes sont responsables pour les assemblées locales, mais moi, non. Je ne fais que venir un jour ou deux, un service ou deux, et ensuite je continue, et je continue. Ainsi, même là, le Seigneur lui-même a donné un commandement. N'établis pas d'église locale. Vous ne m'entendrez pas ou ne me verrez pas m'immiscer dans les affaires locales. » Et ensuite, finalement, le Seigneur même a dit, « Mon serviteur ne publie pas de livre de cantiques, car c'est un signe d'une dénomination. » Eh bien, mes frères et sœurs, même le frère Branham a dit, il n'y aura pas de dénomination. Vous connaissez toutes les églises, vous savez, ce sont des dénominations. Et chaque dénomination a leur propre livre de cantiques, leur propre livre de cantiques. Mais nous n'avons pas besoin d'une dénomination. Nous avons besoin de reconnaître le jour et le message, être aligné avec Dieu et sa parole en obéissance et en se préparant pour le retour du Seigneur. Mais parce que le Seigneur a dit qu'une grande famine allait venir, emmagasine la nourriture, alors les mois passés, c'était avril, et j'ai dit au Seigneur en novembre 1962, « Cher Seigneur, je ne peux plus vivre, je ne peux plus prêcher. Tu as dit qu'une famine viendrait et d'emmagasiner la nourriture, Et moi, j'avais emmagasiné toutes les nourritures que vous pouvez imaginer. Tout a été emmagasiné par tout ce dont vous aviez besoin pour survivre. Vous connaissiez la situation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Berlin était coupé en deux. Il y avait les Soviétiques d'un côté, les Américains de l'autre côté, à Berlin, à Brandebourg, à la porte de Brandebourg. Et en 1961, le mur avait été construit et nous étions en train de trembler et nous demandant ce qui allait se passer. Et alors j'avais cette impression que quelque chose allait se passer et que nous avions besoin de nourriture. Mais cette pensée est venue en moi, tu dois voir frère Branham. Et alors j'ai pris l'avion pour aller voir frère Branham. Et j'étais à Jeffersonville, mais il n'était pas là. Il m'avait demandé de prêcher durant la réunion du matin et du soir dans le tabernacle en décembre 1962. Et le lundi, le 3, frère Branham est venu et nous sommes réunis. Que vous croyez ou pas, il était en train de parler des réunions en Allemagne et en Suisse. Et je n'étais pas intéressé par ces réunions. Je l'ai interrompu. J'ai dit, frère Branham, je suis venu pour te demander quelque chose. Et à ce moment-là, vous pouviez voir que son œil droit était presque fermé. Il était dans une autre dimension. Il a levé sa main. Nous étions assis face à face à la table. Et il a levé sa main et il a dit, frère Franck, pourrais-je te dire ce que le Seigneur t'a dit? Et il a répété mot à mot, dans l'ordre précis, ce que le Seigneur m'avait dit le 2 avril. J'étais assis là. J'ai vu le don en opération plusieurs fois. Mais là, maintenant, j'étais là assis face à lui et j'ai vu que Dieu était présent. Il a dit, tu as mal compris. Tu as pensé qu'il s'agissait d'une famine naturelle et tu as emmagasiné des provisions de l'épicerie naturellement. Mais Dieu amènera une famine d'écouter sa parole et la nourriture que Dieu va emmagasiner est la parole promise pour ce jour. Et alors il a expliqué ce qui concernait la famine. Amos 8:11. Que Dieu enverrait une famine d'écouter sa parole. Et le prophète a dit, la nourriture que tu devais emmagasiner est la parole promise de Dieu. Et ça se trouve dans les sermons qui sont sur les bandes magnétiques. Ainsi, la dernière chose qu'il a dit en relation avec cela est, frère Franck, attends pour distribuer la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Ceci, je ne comprenais pas à l'époque. J'ai laissé cela comme ça. Mais ensuite, le frère Branham a été appelé à la maison le jour de mon anniversaire, le 24 décembre, plus ou moins à 11 heures, j'ai vu le frère Branham monter sur ce nuage que vous voyez sur la photo ici. Tel que vous voyez ce nuage, j'ai vu frère Branham dans une vision monter sur ce nuage. Il était placé juste ici, sur ce côté-ci, ne sachant rien de l'accident, ne sachant rien de son retour à la maison. Mais je l'ai vu allant à la maison. Et bien sûr, j'étais aux funérailles et mes yeux ont été les derniers à voir le prophète dans le cercueil. Et parce que je venais d'Allemagne, je suis allé aux funérailles et j'ai dit à M. Kutz, j'ai fait un voyage depuis l'Allemagne, je dois savoir si le frère Branham, si l'homme de Dieu est dans le cercueil. Alors ils m'ont emmené dans cette pièce qui était un peu inclinée et le frère Branham était dans le cercueil. Pas une égratignure, Et pourtant, il avait eu un terrible accident, un terrible accident. Il avait du sang partout, partout. Vous, on ne peut pas aller dans les détails avec cela. Mais alors là, aucune égratignure, un beau sourire sur son visage. Et il était totalement restauré, guéri dans son corps. Mais voici le point. Il chantait, crois seulement, pendant 1 heure, pendant 2 heures, en s'attendant que le frère Branham ressuscite. Mais bien sûr, il n'est pas ressuscité. Et alors, ils ont dû l'enterrer. C'était le jour le pire de ma vie. Je ne pouvais pas chanter, je pleurais, et j'ai dit au Seigneur, cher Seigneur, comment l'épouse pourra-t-elle être préparée sans le ministère, maintenant que tu as en retiré ton prophète et serviteur? Pour moi, le monde entier était en train de s'écrouler. Mais quand je suis retourné de cet enterrement, je venais d'entrer dans ma chambre d'hôtel et la paix de Dieu est venue en moi. Cette fois, ce n'est pas une voix, mais cela a parlé dans mon cœur. Maintenant, ton temps est venu d'aller de ville en ville pour prêcher la parole de Dieu et pour partager la nourriture spirituelle qui avait été emmagasinée. Ainsi, la première chose que j'ai faite quand je suis revenu à Jeffersonville en avril 1966, j'ai donné ma démission, j'ai arrêté mon travail et j'ai commencé le ministère à plein temps. Maintenant, je regarde en arrière à toutes ces nombreuses années, par la grâce de Dieu, à part quelques exceptions, chaque mois, 2 semaines à la maison, 2 semaines en voyage, 2 semaines à la maison, 2 semaines en voyage. Et depuis 1993, Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, a compté les miles. Et vous savez, durant les 20 premières années de 1993 à 2013, en 20 ans, j'ai eu exactement 6 millions de miles. 6 millions 44 000 miles enregistrés à la compagnie Lufthansa dans le système de Lufthansa lorsque j'ai commencé à compter les miles que vous voulez avec cette compagnie. Ainsi, bien aimé, j'ai fait tout ce que j'ai pu en voyageant jour et nuit, en passant tout mon temps en partageant la parole de Dieu, le message de l'heure, en parlant du retour de Christ, à propos du ministère de Frère Branham, à propos des choses que Dieu a promises dans notre jour. Mais maintenant, le temps est venu de regarder, de lever les yeux, car notre rédemption s'approche. Dans beaucoup de pays où j'ai été plusieurs fois, dans plusieurs pays où j'ai été, dans plusieurs villes, mais toutes ensemble, si on compte bien, j'ai prêché dans 560 villes dans 156 pays. Juste aller et venir, toujours partageant la parole de Dieu, le dernier message avant le retour de Christ. Bien sûr, j'ai prêché à Moscou, j'ai prêché en Sibérie, j'ai prêché dans l'Oural, j'ai prêché à Damas, à Alep, j'ai prêché au Caire, j'ai prêché à Dubaï, j'ai prêché dans tous ces pays, dans tout le monde, en partageant la parole de Dieu. Ne me demandez pas combien de contacts j'ai eu, mais par la grâce de Dieu, celui qui a donné la commission a ouvert les portes et aussi les cœurs. Et même maintenant, il y a 2 semaines, alors que nous étions au Nigeria et au Burkina Faso, vous pouvez imaginer le président du pays, le président du pays, m'a fait la bienvenue. Et on a demandé à cet homme d'Allemagne de prier pour moi et pour le gouvernement. Et le serment que j'ai prêché a été vu et entendu par presque toute la nation. Bien-aimé, Dieu appelle son peuple de toutes les nations, et même à Lagos, et même à Abuja, Dieu a ouvert les cœurs et les portes. Maintenant, bien-aimé, juste pour vous montrer cette photo ici, même le frère Frank a fait un voyage à Washington D.C. parce que j'ai entendu le frère Branham faire cette déclaration plusieurs fois que la lumière surnaturelle qui a été photographiée en janvier, le 24 janvier 1950 à Houston, Texas, est accrochée au Hall des Arts à Washington, D.C. Alors, qu'est-ce que je devais faire? J'ai cru, ce que frère Branham a dit, mais j'ai fait un voyage à Washington et j'ai cherché toute la matinée et j'étais prêt à arrêter ma recherche. Et après 11 heures, j'ai demandé à un homme, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me montrer le Hall des Arts? Il a dit, vous êtes juste devant le bâtiment. Entrez là-dedans. Mes propres yeux ont vu cette photo à Washington, D.C. Et le jeune homme savait où cette photo était. Il a apporté la photo, il me l'a montrée. Et j'ai donné ce témoignage à propos de cette lumière surnaturelle. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur de gloire a confirmé sa parole, a confirmé la commission qu'il a envoyé son serviteur et prophète avant le retour de Christ, avec le dernier message pour appeler le peuple de Dieu, pour le ramener à la parole de Dieu, comme nous avions dit tout à l'heure. Et s'il vous plaît, rappelez-vous, dans la promesse, il est écrit dans Matthieu 17, verset 11, « En vérité, je vous enverrai Élie, le prophète, pour restaurer toutes choses. » La parole « restaurer » et « rétablir » est seulement utilisée en rapport avec le dernier ministère. En rapport avec le ministère de Jean-Baptiste, c'est la parole préparée. Ésaïe 40, verset 3, préparé. Malachie 3, 1, préparé. Matthieu 11, 10, préparé. Marc 1, préparé. Préparé, préparé. Mais quand on parle du ministère du dernier prophète, il est écrit qu'il restaurera, il rétablira toutes choses. Restaurer à Dieu, retour à la parole, retour au fondement, retour aux enseignements apostoliques. Bien-aimés, si cette belle église devait s'écrouler, si elle devait être restaurée, elle devrait avoir la même taille, les mêmes mesures. Toute chose devrait être pareille qu'elle a été avant. Ainsi, il en est de même avec nous. Nous devons maintenant, dans le temps de la restauration de toutes choses, et selon Acte 3, à partir du verset 19, notre Seigneur demeure au ciel jusqu'au temps de restauration de toutes choses. Ainsi, ce temps est le temps le plus important dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu a divinement confirmé sa parole. Et à propos, un de ces hommes qui a pris la photo était un juif et un autre était un catholique. Et les deux ne croyaient pas à propos du surnaturel. Mais ensuite, ils ont dû croire. Et j'ai déjà parlé de ce nuage surnaturel et j'ai apporté avec moi des USA le magazine Life. Et ici, vous avez tout le rapport fait par des gens incrédules. Docteur James MacDonald, un homme. Et ici, vous avez le titre. un nuage haut élevé et un cercle de mystère. Oui, ça ne s'est pas passé quelque part dans un coin. Ça s'est passé dans notre temps. Et ici, dans Science Magazine, le magazine Science a publié l'article sur l'apparition surnaturelle de ce nuage. Eh bien, mes frères et sœurs, j'étais avec Frère Branham en décembre 1962. Et il m'a parlé personnellement sur la vision que le Seigneur lui avait montrée sur l'apparition de ce nuage surnaturel. Et vous savez quoi? Vous pouvez imaginer, William Branham, le serviteur et prophète de Dieu, a demandé Frère Frank, en décembre 1962, de prêcher pour lui à Los Angeles. Je n'avais jamais été à Los Angeles avant. Mais le Frère Branham m'a demandé à moi, Frère Frank, selon la vision que le Seigneur lui avait montrée, il y avait quelques mois, environ 6 mois avant cela, qu'il devait faire ses bagages et déménager sa famille à Tucson. Et vous savez quoi? Tous ceux qui connaissent les sermons du frère Branham, il a vu une vision. Quand la rue, Ewing Lane, c'est sa rue, où le frère Branham vivait, quand cette petite rue, très petite rue, et le frère Branham a vu que quand ces barrières seraient retirées et mises sur la pelouse, et quand les bulldozers iraient le long de la route, et quand cette route serait élargie, alors que ce serait le moment pour lui de déménager. Et ses yeux-ci, en décembre 1962, ont vu les barrières sur la pelouse. Et ses yeux ont vu les bulldozers aller et venant sur la rue. Et le frère Branham m'a demandé, Frère Frank, est-ce que tu as le temps d'aller à ma place à Los Angeles avec Demos Chakarian pour la Convention des hommes d'affaires du plein évangile? Et j'ai dit, oui, bien sûr, j'irai. Mais je voudrais que vous sachiez que je ne viens pas comme ça. J'étais avec frère Branham. Je suis un habitué de sa commission divine avec le message de l'heure. J'ai traduit presque tous ses sermons en langue allemande. Et par la grâce de Dieu et par l'appel divin, je dois aller de nation en nation et de lieu en lieu pour partager la véritable parole de Dieu. Maintenant, nous allons faire un résumé de ce que nous devons dire ici aujourd'hui. Nous avons lu que l'Évangile que Dieu a promis par les prophètes de l'Ancien Testament, bien-aimés frères et sœurs, 845 fois dans le Nouveau Testament, vous trouvez des références avec l'Ancien Testament. À la première venue de Christ, plus de 100 prophéties et promesses de l'Ancien Testament se sont accomplis. Tout à propos de la naissance du Seigneur et Sauveur, tout était écrit dans le prophète, même à propos de sa résurrection, à propos de son ascension, tout était écrit dans le prophète. Et maintenant, nous devons sonder la même parole de Dieu pour découvrir les promesses. Ancien et Nouveau Testament vont ensemble. Harmonieusement, ils vont ensemble. Et d'abord, Dieu fait des promesses, et quand le temps est arrivé, Dieu accomplit ce qu'il a promis. C'est comme dans Genèse, chapitre 15, le Seigneur a donné la promesse à Abraham, qu'après 400 ans, j'apporterai ton peuple hors de l'esclavage. Ensuite, 400 ans sont passés, et Dieu s'est rappelé sa promesse. Et il est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Il a dit, je me souviens de ma promesse. Dieu se rappelle de ses promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 20 et 21 et 22. Ainsi, nous sommes les enfants de la promesse. Galates, chapitre 4, verset 28, dit, « Vous êtes, comme Isaac l'était, enfants de la promesse. » Enfants de la promesse. Les enfants de la promesse croient les paroles de la promesse et reçoivent l'esprit de la promesse. Et ensuite, par un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans un seul corps. Et ensuite, finalement, nous sommes scellés par le Saint-Esprit de la promesse, selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 13. Ainsi, ceci est un travail complet du salut que Dieu est en train d'accomplir en notre temps. D'abord, nous recevons Christ comme notre Sauveur, nous nous repentons de nos péchés et nous sommes baptisés selon la parole de Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Une foi, un baptême, un Seigneur. Que toutes les autres églises fassent ce qu'elles veulent. Nous suivons le modèle de ce que Dieu a dit. Acte chapitre 2, Acte 8, Acte 10, Acte 19. Tous les croyants, juifs, gentils, samaritains, tous étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés, disons encore finalement aussi que nous devons obéir. La foi et l'obéissance vont ensemble. Si vous dites que vous croyez, vous devez croire. Si vous n'obéissez pas, vous ne croyez pas. Abraham crut, mais Abraham aussi a obéi. Il a obéi quand le Seigneur a dit « Prends ton fils et va à l'endroit où je te montrerai. » Et il l'a emmené à la montagne de Morija pour offrir son fils Isaac. Alors, si nous croyons, nous obéissons, et même de la grande commission que le Seigneur a donnée, que nous devrions prêcher la parole de Jésus, l'évangile de Jésus-Christ, et ensuite ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, si vous croyez, vous serez baptisés. Si vous refusez d'être baptisés, quelque chose ne va pas. Quelque chose est faux. S'il vous plaît, prenez cela sérieusement. Il n'y a pas d'autre chemin, vous pouvez vous faufiler comme cela. Non. Non, le chemin est droit et étroit est la porte. Ainsi, ceci est le temps le plus important pour l'Église du Nouveau Testament, le moment le plus important pour l'épouse de Christ de se préparer et, comme nous avons lu ici, dans les quatre endroits au commencement. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul disait, il a mis l'accent sur le fait qu'il a été appelé apôtre pour partager l'évangile de Dieu et les choses qui nous ont été dites par les prophètes de l'Ancien Testament. Et le dernier verset du chapitre 16, que nous devons être établis, frères et sœurs. Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, de croire la parole promise de Dieu et de s'aligner à la parole de Dieu et d'être obéissant comme notre Seigneur a été obéissant lui-même et d'être préparé pour le retour de Christ. Pour ceux qui seront prêts, ils seront enlevés à la gloire, dans la gloire. Je vais finir en disant encore une chose, bien-aimé. En 1980, j'étais au Ghana et au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai eu la malaria tropicale. Et juste pour la Noël, en décembre 1980, je suis rentré en Allemagne et je ne pouvais plus manger. J'étais de plus en plus faible. Et alors, j'ai été emmené à l'hôpital. Et là, au commencement de janvier, les docteurs, les médecins, Baker et toute l'équipe qui était autour de moi, ils avaient dit qu'il était trop tard et que rien ne pouvait être fait. 49% de son sang ces globules rouges étaient partis et j'étais en train de partir. Et ensuite, ils m'ont poussé dans la chambre où les gens meurent. Mais je dois vous dire, c'était une expérience très spéciale. Ils m'ont mis dans une pièce où il y avait un rideau à gauche, un rideau à droite, et à ma droite, il y avait un incroyant qui combattait sa dernière bataille avant de partir. Oh là là, vous n'avez jamais entendu de telles paroles dans votre vie. Mais il y avait une paix de Dieu dans mon âme. Une telle paix de Dieu. Je ne pouvais plus parler, mais je désirais dire au Seigneur, « Cher Seigneur, je viens à toi maintenant, mais comment est-ce que je me trouve devant toi? Comment est-ce que j'apparais dans ta présence? » Le moment suivant, que vous le croyez ou pas, je suis sorti de mon corps. J'ai été pris hors de mon corps. Et quand j'ai regardé à ma droite, j'étais sous un ciel bleu. Et il y avait une multitude toute dressée de blanc que personne ne pouvait dénombrer. Et tous étaient jeunes. Tout le monde était jeune. On dirait 17, 18 ans. Tout le monde était jeune. Et nous montions comme cela. Et en ce moment-là, je ne savais pas ce qui était écrit dans Job 33, au verset 25, que nous retournerions dans l'âge de notre jeunesse. Mais, frères et sœurs, dans la résurrection, il n'y aura plus de traces de péché, non, plus de traces de maladie ou d'âge, d'ancienneté, de douleur, et nous serons jeunes pour toujours et toujours. Et nous ne serions plus jamais vieux. Nous serons toujours avec le Seigneur pour toujours et toujours. Et à jamais. Et ensuite, pendant que nous montions, et tout à coup, dans ce corps céleste dans lequel j'étais, pendant que je montais, et tout à coup, j'ai regardé en haut, et là j'ai vu la nouvelle Jérusalem. Je peux même dessiner. Je peux même la dessiner, la Nouvelle Jérusalem. Et quand le frère Branham a fait la déclaration que la Nouvelle Jérusalem n'était pas une pyramide, comment vous appelez cela? Pointu. Un cube? Non, c'est si merveilleux. Frères et sœurs, ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous vous préparez pour le retour de Christ? Et ceux qui n'ont pas encore dédié leur vie à Dieu, combien ont entendu à propos du message de l'heure? Faites-moi voir vos mains. La plupart d'entre vous. Mais il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de cela. Ainsi, ceci est le jour que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Ainsi, soyez préparés, soyez prêts pour rencontrer le Seigneur. Je crois que sa venue est très, très proche. Nous ne pouvons pas parler à propos des signes, des temps, mais notre Seigneur a dit trois fois, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez les yeux, car vous savez que votre rédemption est proche. Personne ne sait le jour ou l'heure. Mais il a dit, quand vous verrez ces choses, c'est à la porte. C'est à la porte. Ainsi, peut-être en venant ici, on a fait 50 km, mais quand nous arriverons à la porte, quand nous arrivons à la porte, nous sommes à la porte, nous sommes près d'entrée. Ainsi, le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses prophétiques, toutes ces prédictions bibliques être accomplies avec Israël, avec les nations, quand vous verrez toutes ces choses qui ont été prédites, accomplies, alors levez vos yeux, car votre rédemption est proche, c'est à la porte. Ainsi, le Seigneur a besoin de venir il n'a plus qu'à venir, qu'à rentrer. Et quand il viendra, ce sera une réalité. Chaque chose avec notre Seigneur est une réalité. Sa première venue a été une réalité. Sa naissance a été une réalité. Sa vie, son ministère, ses souffrances, sa mort, son enterrement, sa résurrection, tout, tout a été réalité. Et le retour de Christ sera une grande, la plus grande réalité. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Et nous, qui serons encore vivants en Christ, nous serons changés. Ce corps de corruption sera changé. Et tous ensemble, nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. D'abord dans les noces de l'agneau, et nous reviendrons avec lui pour le millénium. Merci, Dieu, béni soit Dieu, remerciement soit donné à Dieu pour la parole de Dieu et le Nouveau Testament, pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Remerciement soit rendu à Dieu pour ses serviteurs et prophètes. Grâce soit rendue à Dieu pour le message de l'heure. Grâce soit rendue à Dieu pour toutes, car toutes les nations ont entendu la parole, les Écritures accomplies. Cet évangile sera prêché dans toutes les nations et ensuite viendra la fin. Ainsi, soyez bénis avec toutes les bénédictions du Dieu Tout-Puissant. Et je suis sûr de vous voir encore quand le Seigneur reviendra. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Levons-nous pour un moment de prière. Oui, s'il vous plaît. Et nous allons baisser la tête et nous allons ouvrir nos cœurs. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi faire cette remarque. Ne suivez pas un homme, ne suivez pas les interprétations, suivez Christ. Et Christ est la parole. Et la parole demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour toujours et toujours. Demeurez dans la parole de Dieu. C'est seulement si vous êtes dans la parole que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et chaque vrai enseignement unit le corps du Christ ensemble. Chaque faux enseignement divise le corps du Christ. Ainsi, qu'il n'y ait plus de division, mais que le peuple de Dieu soit uni sous Christ la tête, sous le sang de l'agneau, sanctifié de la parole de Dieu, et rempli et scellé par le Saint-Esprit, car le jour de notre rédemption, de notre corps, approche. Combien désire être prêt pour le retour de Christ? Laissez-moi voir vos mains. Alléluia! Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Et ceux qui seront prêts entreront et seront avec le Seigneur dans les noces de l'agneau, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Pas d'interprétation, pas d'explication. La réalité. La seconde venue du Christ sera une réalité. Il reviendra dans le même corps dans lequel il était enlevé dans la gloire. Acte 1, 9 à 11. Luc 24, 20 et 21. Le même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous dans la gloire reviendra de la même manière, pas en tant que révélation, pas en tant qu'enseignement, mais dans la réalité. Et nous serons enlevés en réalité. Nous serons changés réellement. Toute chose avec Dieu est une réalité. Ainsi, recevez la rémission de vos péchés. Recevez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Et soyez scellés par le Saint-Esprit de promesse jusqu'au jour de votre rédemption. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour être venu. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse.